don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲南木家
正忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une mission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Audrey Rameau, Clément Salazar, Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. On va poursuivre troisième volet donc de notre série consacrée à l'action humanitaire. Aujourd'hui, assistance mortelle, les dérives de l'aide.
Il me dit, mais non, c'est tremblement de terre, oui.
La terre tremble très fort. Tout le pays est tout blanche avec de la poussière.
Nous avons très vite réalisé ce dont les gens avaient d'abord besoin. De l'eau potable, des couvertures, des seaux, du matériel pour l'hygiène, des choses utiles dans la détresse.
Il faut comprendre que les opérations humanitaires ne sont pas un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Elles sont très très difficiles, complexes et prennent du temps. Alors avons-nous progressé? Oui. Aussi rapidement qu'il le fallait? Non, mais nous finirons par y arriver.
Très rapidement, on a ressenti une espèce de rouleau compresseur, de bulldozer qui était en action, où le facteur humain était très souvent absent. Il y a un ensemble de règles absolument de base qu'il faudrait suivre, et tous les intervenants savent qu'il faut les suivre. Simplement, une fois dans l'urgence, on oublie tout ça.
La ligne entre ingérence, appui et support est très fine.
12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7,3 dévaste Haïti, entraîne la mort de plus de 230 000 personnes. Les images du pays le plus pauvre du continent, ravagé par le tremblement de terre, sont apocalyptiques. Aussitôt, l'aide internationale se mobilise, des milliers d'ONG lèvent des fonds, affluent sur l'île pour parer au plus urgent, et puis rapidement pour reconstruire le pays. Des milliards de dollars sont promis à Haïti. Bill Clinton, nommé représentant spécial des Nations Unies, s'engage personnellement, mais rapidement, les critiques fusent, un sentiment de gâchis d'une action vaine, sans concertation, sans efficacité. Trois ans plus tard, le bilan est même catastrophique pour le réalisateur haïtien Raoul Peck, qu'on entendait justement, qui dans son documentaire « Assistance mortelle » dénonce alors les dérives de l'aide humanitaire. Il y pointe l'absence de coordination, le défilé des stars et autres 4x4, les promesses non tenues, la gabegie, l'absurdité des projets de reconstruction. Haïti devient l'un des symboles du désastre humanitaire, un système arrivé à bout de souffle. Alors comment réformer ce système de plus en plus montré du doigt? Quels sont les modèles les plus adaptés pour répondre aux défis de demain? Comment les ONG peuvent-elles faire face à l'arrivée dans le monde de l'humanitaire de nouveaux acteurs, et notamment des acteurs privés? Alors que les entreprises développent de plus en plus des activités également dans ce secteur, en parallèle, faut-il craindre que l'assistance devienne le service après-vente du capitalisme? Comment empêcher son instrumentalisation aussi à des fins purement économiques aux dépens de l'action sociale? Faut-il aussi aller vers une désoccidentalisation des ONG internationales avec la multiplication des ONG dites du Sud? D'ailleurs, comment opérer ce transfert de pouvoir, ce transfert de compétences? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin pour ce faire deux invités ici en plateau. D'abord, Stéphanie Stern, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'IRIS. Vous êtes spécialisée sur ces questions de solidarité internationale et de mutation du secteur humanitaire qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes auteur, co-auteur en tout cas, d'un dossier qui était paru dans la revue 98, Revue internationale et stratégique. À vos côtés, Boris Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes l'ancien directeur en chef de la revue humanitaire, auteur de cet ouvrage, L'adieu à l'humanitaire, point d'interrogation, les ONG au défi de l'offensive néolibérale. Alors, on va commencer peut-être avec cette actualité qui va assez rapidement arriver, puisque au mois de mai prochain, Istanbul va accueillir le premier sommet humanitaire international. Pour préparer ce rendez-vous, d'ailleurs, on a eu un groupe d'experts des Nations Unies qui a été chargé de préparer un rapport qui a été publié récemment, un rapport intitulé « Too important to fail », trop important pour échouer. Quel regard vous portez l'un et l'autre sur cette initiative? Quels seront les enjeux et qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement de ce sommet? Allez, Stéphanie Stern, vous commencez?
Alors écoutez, moi je trouve qu'au départ l'initiative était intéressante puisque l'idée était vraiment de réfléchir à exactement comment est-ce que le système humanitaire fonctionnait et comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer et permettre qu'il soit plus efficace. Donc l'idée était bonne, la seule chose c'est après en termes d'organisation et en termes de lourdeur de la structure, on s'est retrouvé encore dans une grosse machine onusienne et l'idée étant de pouvoir... Principalement, l'idée était effectivement d'une réappropriation. L'objectif quand même principal de ce sommet était de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait réapproprier l'aide pour les populations du Sud. Et finalement, on voit que concrètement, dans toutes les consultations qui ont été menées, dans tout le process de réflexion, etc., les acteurs du Sud, les partenaires, les petits partenaires qui sont aussi tout le maillage et tout le réseau qui constitue l'action humanitaire et l'aide humanitaire et le net network humanitaire aujourd'hui, finalement, n'était pas inclus dans ce système-là. Alors que c'est précisément un des enjeux. Donc, il y avait, par exemple, 4 piliers thématiques sur lesquels toutes les discussions ont été menées. Et dans ces 4 piliers thématiques, donc, à chaque fois, il y a un groupe constitué d'une dizaine de personnes qui forment le cœur des réflexions. Et après, ils ont un ensemble d'experts autour d'eux. Mais si vous voulez, sur ces 4 piliers thématiques, dans ces groupes, les membres de ces groupes sont essentiellement constitués de membres d'organisations internationales. Donc du coup, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai problème qui est plus un problème structurel et qui du coup est assez révélateur finalement des problèmes structurels de l'ensemble du secteur et du système
mais
humanitaire.
Mais ceci dit, on avait déjà conscience de ce problème structurel et je vous passe la parole dans un instant, Boris Martin, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, les Nations Unies avaient déjà mis en place un nouveau système de coordination, ce qu'on appelle l'approche par clusters. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que ça veut dire, très concrètement, et quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Si 10 ans après, finalement, on se réinterroge sur cette réforme de l'humanitaire, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné?
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais que du coup, si je puis dire, je trouve qu'on est englué aujourd'hui dans un système avec des process, par exemple comme les process des clusters, en fait, qui au départ est une bonne idée, c'est de se dire voilà, on va coordonner l'action par rapport à des secteurs d'activité. Donc du coup. En somme, au départ, c'est une bonne idée. Toutes les idées de coordination des Nations Unies sont des bonnes idées. OCHA, l'instance de coordination de réponse humanitaire, de se dire, il faut coordonner l'aide. Tout ça, au départ, tout ça, effectivement, part de bonnes intentions et part d'idées, enfin, d'un processus logique d'optimisation de l'aide.
Sauf que déjà, à l'époque, on n'avait pas pensé à l'intégration de ces fameuses ONG dites du Sud, qui sont des ONG locales, en réalité.
Sauf qu'en fait, tous ces processus qui ont été mis en place ne sont pas des processus inclusifs. Et que, du coup, ils permettent de fonctionner dans une communauté internationale, mais n'incluent pas les nouveaux acteurs humanitaires.
Boris Martin, votre livre s'ouvre sur cette incise. En humanitaire comme en politique, la rhétorique du changement est la rengaine favorite de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Qui veut prendre le pouvoir dans ce prochain premier sommet international de l'humanitaire? Qui va vouloir prendre le pouvoir?
Alors je dirais pas mieux que Stéphanie hein, sur le sommet humanitaire mondial. Qui veut prendre le pouvoir? Alors, effectivement, ça, cette rhétorique du changement, elle est très forte, ça. Et étonnamment, et j'ai fait effectivement le parallèle avec le politique, parce que c'est ce genre de mot déclic, là. Changement, réforme, partenariat, convergence. Et il y a tous ces mots, là, dans le sommet humanitaire mondial. Alors, qu'est-ce que ça dissimule? Je suis pas du tout dans une logique du complot, mais je pense qu'effectivement il y a une logique systémique qui s'est mise en place, qui à mon avis va culminer au moment du sommet humanitaire mondial. Et moi, parmi effectivement les acteurs que je vois arriver avec une volonté de, enfin, en tout cas une logique de prise de pouvoir, on n'est pas dans un complot encore une fois, mais effectivement les Nations Unies. Et puis le secteur privé, le secteur des entreprises. Et à l'appui de cette logique-là, effectivement, il y a toute la critique permanente de l'humanitaire qui est justifié dans une certaine manière. Hein. Il ne s'agit pas de s'absoudre de critiques sur les ONG humanitaires, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette critique un petit peu globale du milieu humanitaire?
C'est en même temps, si on prend le système humanitaire dans sa globalité, finalement, il n'y a peut-être pas de consensus dans le monde de l'humanitaire en général pour dire qu'il doit se réformer, parce que finalement, la crise, elle atteint surtout les ONG historiques, traditionnelles, les ONG du Nord en réalité, parce que du côté des ONG du Sud, ça fonctionne plutôt finalement. Ceux qui doivent se repenser, c'est surtout les ONG du Nord. Et en même temps, regardons aussi un peu le verre à moitié plein. Quand on regarde la question du financement, l'argent consacré à l'action humanitaire, il a jamais été aussi important. Je sais pas à combien on est, mais je crois qu'on était en 2012 à 18 milliards de dollars.
On est à 22 milliards
donc
apparemment aujourd'hui.
22 milliards même aujourd'hui. Donc ça a continué d'augmenter. Donc du point de vue financier, le secteur se porte très bien finalement.
Le secteur se porte. Alors, en fait, oui, effectivement, le volume ne cesse de croître. À côté de ça, le nombre de crises aussi ne cesse de croître. Aujourd'hui, on est sur 5 crises de niveau 3 dans le système des Nations Unies, ce qu'on n'avait jamais, un niveau qu'on n'avait jamais atteint auparavant.
Alors que le système prévoyait d'en gérer 2 en réalité.
Exactement. Était conçu pour pouvoir gérer 2 crises simultanées de niveau 3 en même temps. Donc là, aujourd'hui, on en est à 5. Avec, on le sait très bien, une propension à la croissance aussi, à l'augmentation du nombre de crises. Donc, en même temps, effectivement, en termes financiers, mais enfin bon, ça me choque un peu de dire que le secteur se porte bien parce que finalement, non, il se porte mal, parce que l'idée, c'est justement d'avoir le moins de... L'objectif des humanitaires, finalement, au final, c'est de plus être là. C'est qu'on n'ait plus besoin de nous. Donc, c'est-à-dire que du coup, les sociétés civiles, les États sont capables de se réapproprier leurs réponses humanitaires et sont capables de répondre aux besoins de leur population et donc d'être dans un système de réponse endogène, si je puis dire. Donc aujourd'hui on n'en est pas là et en même temps
c'est une forme de provocation ce que je dis, c'est-à-dire que je souligne juste le fait qu'il existe des ONG qui ont des moyens humains et financiers considérables. Oui. Save the Children, je ne sais plus combien c'est d'employés, mais c'est quasiment 3 milliards de dollars de budget annuel.
Tout à fait.
C'est l'équivalent de budget de petits pays africains, par exemple.
Oui, c'est clair. Mais quand vous parlez justement du financement en disant que les ONG du Sud se portent bien, moi justement, je pense que les ONG du Sud, elles sont essentielles pour le système parce qu'elles apportent cette innovation, cette flexibilité, cette fraîcheur, si je puis dire. Mm-hmm. C'est pas vraiment une fraîcheur, mais enfin bon, ce nouveau regard par rapport à l'action humanitaire. Mais en même temps, ces acteurs-là n'ont pas accès aux financements internationaux. Parce qu'il faut voir que pouvoir répondre à un appel à projet de l'Union européenne, c'est un véritable parcours du combattant. Qu'il faut être un bureaucrate et être extrêmement aguerri. C'est des rapports qui font 160 pages avec 170 annexes, etc. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué d'y accéder. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce maillage...
Parce que l'humanitaire est un instrument de la diplomatie.
Bien sûr, tout à fait.
Les bailleurs de fonds ne vont pas donner de l'argent si c'est pour agir pas dans son intérêt. Je dis pas que c'est bien.
Mais après, je pense que c'est pas simplement ça, parce que quand on regarde les politiques aux États-Unis ou en Angleterre ou en Europe, etc., toutes ces politiques de stabilisation qu'on a sur certains pays comme l'Afghanistan, par exemple, où ils ont intérêt aussi, effectivement, de par rapport à cet objectif de stabilisation, de travailler avec une multitude d'acteurs, que ce soit des acteurs internationaux, mais aussi des acteurs nationaux, qui vont à différents niveaux en fait pouvoir répondre à leurs objectifs géopolitiques de stabilisation mondiale et de gouvernance mondiale.
Boris Martin, sur cette question du financement.
Oui, moi j'ai envie de dire que pour rebondir, si le système financier humanitaire international se porte bien, comme vous dites, et là j'aurais quelques réserves, mais c'est que le monde va mal, déjà. Enfin, je veux dire par là que ce système humanitaire mondial, c'est pas une entreprise qui, avec 22 milliards de dollars, a fait des bénéfices, c'est-à-dire que ça correspond à des besoins. Et voilà, il n'y a pas un système qui fait du profit sur sur les souffrances des populations. D'autre part, vous parliez effectivement ONG du Nord, ONG du Sud. Je ne pense pas qu'il faille les opposer. Bien au contraire, je pense que ça serait une erreur de les opposer. Je pense aussi que ça serait une erreur à la fois d'être dans une sorte de ce que Bruckner appelait les sanglots de l'homme blanc, hein, c'est-à-dire cette rhétorique de la désoccidentalisation de l'aide humanitaire. Moi, je suis assez réservé là-dessus, c'est-à-dire qu'on doit être fier, enfin, on doit la porter, cette aide humanitaire occidentale, la critiquer certes, encore une fois, mais on doit la porter. D'autre part, l'aide humanitaire, en tout cas, le travail, la montée des ONG du Sud, ça c'est un signe très 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 fort, et en même temps c'est très disparate, hein, entre ces ONG, ces petites ONG du Sud, ce petit maillage là qui correspond aussi même au maillage que l'on a en Occident. En France, passer les 20 grandes ONG françaises, le reste c'est un petit maillage qui est essentiel, mais qui ne fait pas toute la structure. Et je rajouterais, effectivement, tu parlais, Stéphanie, d'une bouffée d'air pur des ONG du Sud. Moi, pour moi, la première chose, c'est qu'elles ont une connaissance très très forte, une implantation locale, et que, même géographiquement, enfin, elles interviennent bien avant les ONG du Nord en général. On a observé, par exemple, pendant le tsunami en 2004, que les premières ONG à intervenir, c'était des ONG du Sud. Et là, c'était pas forcément des grandes ONG. Il y avait aussi la Croix-Rouge. Donc là, ça, c'est tout le maillage de la Croix-Rouge. Mais il faut savoir s'appuyer sur ce maillage-là, pas créer de dichotomie entre les ONG du Nord et les ONG du Sud.
On reviendra sur ces ONG du Sud et on va parler notamment d'une ONG très connu au Bangladesh, qui est le BRAC, on en parlera tout à l'heure, mais Stéphanie Stern, je vous cite, vous écrivez « Autrefois chasse gardée des ONG, le secteur humanitaire attire de plus en plus de nouveaux acteurs, pouvoirs publics, armées, entreprises, fondations et autres acteurs issus de la société civile. Les ONG se sont longtemps définies en opposition à la logique commerciale des entreprises et se voient obligées, face à l'implication croissante de ces dernières, de revoir leur position. » Qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphanie Stern? Est-ce que l'arrivée des entreprises privées fait que les ONG doivent se transformer pour leur ressembler?
Non, au contraire, je pense que les ONG doivent œuvrer pour transformer les entreprises. C'est dans le sens
inverse. Bon courage.
Bon courage.
Enlever de la bouche.
Mais bon, s'il faut être ambitieux, soyons ambitieux. Alors j'y crois, on n'arrivera bien évidemment pas à les transformer totalement. Sauf que arriver à mélanger un peu les deux cultures, je pense que c'est quelque chose qui est très important.
Nécessaire, d'accord, mais est-ce qu'ils ont des leviers d'action pour le faire?
Des leviers d'action, les ONG?
Les ONG.
Oui, alors regardez, c'est très intéressant, et c'est pour ça que je suis contente qu'on parle de BRAC après, je voudrais parler moi de l'Inde, parce que l'Inde en 2013 a voté une loi qui impose que 2% du résultat net des entreprises soient investis dans des actions de solidarité indienne. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup on arrive effectivement à une responsabilisation des entreprises en les engageant dans un devoir social et dans une responsabilité sociale vis-à-vis des citoyens. Donc du coup je trouve que c'est une démarche intéressante et j'en discutais justement hier avec.
Et vous pensez qu'on pourrait les imiter ici en Europe?
Bah pourquoi pas, on a mis la taxe sur les billets d'avion, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas taxer de la même façon les bénéfices des entreprises pour que du coup une partie de leurs revenus soit réinvestie dans des actions sociales? Je trouve que la question est intéressante. En tous les cas, je ne sais pas si c'est adapté au modèle. En tous les cas, il faut se poser ces questions-là. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où les ONG n'ont plus d'indépendance parce qu'elles n'ont pas d'indépendance financière et que du coup, il faut réfléchir à la façon dont on travaille pour arrêter de se dire on n'a pas d'indépendance, on a des problèmes de neutralité, d'impartialité, etc. Il y a des modèles d'ONG comme MSF qui sont 100%, qui se financent à 100% sur des fonds privés.
Pour la France.
Pour la France. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est des modèles qui sont intéressants. Et je pense que de toute façon, on va arriver dans un système à terme. C'est ce qu'on disait auparavant, c'est que le nombre de crises va augmenter. Le nombre de personnes vulnérables va augmenter également. Donc il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème de financement, comment on va pouvoir récupérer notre indépendance et quelles sont les nouvelles formes de financement innovantes. Et on parle effectivement de récupération du secteur privé, de leur agenda caché, etc. Mais c'est la même chose pour les fonds publics. C'est ce que vous disiez auparavant sur la diplomatie humanitaire des États. C'est exactement la même chose. Chacun, on n'est pas dans un monde...
Acceptons ses contraintes.
Acceptons ses contraintes, ouais. Acceptons et choisissons nos dépendances.
Boris Martin.
Oui, alors, évidemment, on vit pas dans des mondes séparés. Les ONG, elles vivent dans cette économie libérale. Donc, il s'agit pas de dire... on va avoir ce monde-là. Des ONG seraient un petit peu sanctuarisées et devraient se protéger à tout prix du monde des entreprises. Moi, je dis absolument pas ça dans mon livre. En revanche, moi, je ne crois pas une seconde, mais alors pas une seconde, à cet esprit philanthropique des entreprises.
D'accord, moi, sûr, parce que quand même, à vous lire, je crois quand même comprendre que cette montée en puissance des acteurs privés, ça vous inquiète, enfin, ça vous réjouit pas vraiment.
Ça m'inquiète, non pas parce que je, encore une fois, j'ai pas là cette manie du complot de ces entreprises. Je crois que effectivement, elles ont pris conscience sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des crises de 2008 jusqu'à aujourd'hui, qu'elles devaient elles-mêmes se réformer. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de responsabilité sociale, environnementale des entreprises, etc. Je pense qu'elles ont bien compris leur intérêt de devenir tout d'un coup responsables socialement et environnementalement. Je ne crois pas pour autant qu'elles ont fait une mue en profondeur. Pour travailler sur ce livre, j'ai travaillé sur des supports sur lesquels je ne serais pas allé en temps normal. C'est pas forcément mon domaine, mais par exemple... j'en crois un consultant qui travaille beaucoup pour des entreprises, Monsieur Basso, qui a écrit La politique de la très grande entreprise, qui lui parle du principe de mouvement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises fonctionnent selon un mouvement qui est de coloniser naturellement des domaines qui ne sont pas de leur sphère. Et je pense que le domaine des ONG est un domaine qui, non seulement qui leur a longtemps échappé, d'autre part qui est un domaine, enfin les ONG les critiquent énormément. Donc effectivement, cette approche de plus en plus conciliante des entreprises et des fondations d'entreprises vis-à-vis du milieu ONG, je pense qu'il doit se lire dans cette logique d'un principe de mouvement. Ça ne veut pas dire que les ONG doivent refuser les financements des entreprises privées. Je pense qu'elles se croient fortes, les ONG, pardon, pour résister à cette avancée du secteur privé. Je crois qu'elles ne le sont pas tant que ça. En revanche, je pense qu'elles doivent se réinvestir.
Quelle faiblesse en particulier vous la voyez?
C'est-à-dire que lorsque vous êtes une ONG qui effectivement voit une baisse des financements publics, tout simplement vous avez des entreprises, des fondations d'entreprises qui viennent proposer des financements. Là, on passe une convention. Et là, dans la convention, dans beaucoup de conventions des ONG que j'ai vues, il n'y a vraiment quasiment aucune clause vraiment sérieuse. C'est-à-dire que on prend l'argent sur un projet et du coup, l'entreprise ou la fondation d'entreprise va pouvoir bénéficier du logo, du label humanitaire pendant un certain temps. Et là, les services juridiques des ONG, et je dirais plus largement les directions d'ONG, sont vraiment très naïves sur comment se protéger. Non pas pour refuser, mais simplement pour dire il y a une limite haute, une limite basse, acceptons un partenariat sur tel programme, mais sachez que nous n'accepterons pas certaines choses, qu'on en acceptera d'autres, et qu'on est forte de ce que nous sommes, mais c'est pas l'auberge espagnole.
Est-ce que vous avez peur, Boris Martin, que la montée en puissance des acteurs privés dans le monde humanitaire ne provoque un recul de l'implication des États et de l'aide publique.
Absolument, absolument. Et je dirais, alors, dans mon esprit pervers, la thèse que j'évoque dans mon livre, c'est celle d'une alliance objective entre les États et les entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'un côté, les États, effectivement, baissent des financements vis-à-vis des ONG. C'est un coût, c'est évident, hein, que ce soit directement ou via les Nations Unies ou via ECHO, l'Office humanitaire européen. Donc, réduire les financements, et on va dire logiquement, c'est dans la logique normale des États. D'autre part, même si on discute beaucoup, les ONG discutent beaucoup avec les structures étatiques, en France il y a une cellule des crises, il y a un ministère des Affaires étrangères avec lesquels on a plein d'interfaces. Pour autant, j'ai envie de dire, moi du point de vue de l'État, je me dis ça fait des années que ces ONG tapent sur l'État, sont très critiques. Alors voilà, donc on commence un petit peu peut-être à avoir du mal à gérer ces ONG. Et
oui.
Et juste pour terminer,
je vous en prie.
L'arrivée des entreprises dans ce cadre-là. Donc là, je crois qu'il y a une sorte d'alliance objective qui est en train de se mettre en place.
Stéphanie Stern, justement, avant de parler de cette entreprise bangladaise, un mot sur cette alliance objective entre le privé et les États?
Je pense qu'en fait, il faut se dire que de toute façon, on est dans une tendance aujourd'hui vers effectivement plus de synergie, que ce soit avec les États, avec les entreprises, etc. L'important, à mon avis, c'est l'important, c'est les populations, finalement. Les populations vulnérables, au final. Et que l'idée, c'est de se dire, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Boris sur le secteur privé, dans le sens où il y a une possibilité, enfin, il y a des agendas cachés, mais comme je le disais, tout le monde a des agendas cachés. Ce qui est important, c'est la complémentarité, en fait. Et c'est de se dire, effectivement, peut-être que certaines fondations vont aller plus sur telle population, etc., parce que ça, il y a des intérêts pour eux économiques derrière. Mais du coup, à l'ONG après de faire contrepoids et d'être le garant que les populations vulnérables et que les vulnérabilités qui sont pas forcément les plus, on va dire, bancables, soient malgré tout couvertes et soient...
Faut cartographier géographiquement, socialement les choses. Et il peut y avoir une forme de complémentarité entre les deux.
Il peut y avoir une forme de complémentarité, je pense.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine autour de l'action humanitaire, aujourd'hui assistance mortelle, les dérives de l'aide, avec nos deux invités, Stéphanie Stern et Boris Martin. On parlait des ONG occidentales, des ONG du Sud. Bah justement, allons vers le Sud. Plus de 120 000 employés, un siège implanté dans un immense tour de béton de plus de 60 mètres dans le cœur de Dakar, le BRAC, la plus grande ONG du monde, dont les activités génèrent près de 3% du PNB du Bangladesh. Or, le BRAC agit dans le monde de l'humanitaire, justement, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Petit tour d'horizon de son activité.
S'il n'y avait pas cette maison de BRAC, j'accoucherais chez moi avec une sage-femme ou avec ma belle-sœur. Maintenant, j'ai réalisé que cela serait beaucoup plus sûr pour ma santé de le faire ici.
Ces familles ont du mal à faire confiance à des obstétriciens comme moi et n'aiment donc pas aller à l'hôpital. Du coup, nous avons amené la maternité dans leur quartier et ce sont des sages-femmes traditionnelles, recommandées par la communauté, qui réalisent les accouchements. Nous formons ces femmes pendant environ une semaine afin de corriger leurs mauvais gestes. Mais pour l'essentiel, elles sont déjà plus compétentes que moi.
Nous faisons toujours remonter les idées du terrain et nous les améliorons à travers notre laboratoire de recherche. C'est ainsi que dans les années 80, nous avons lancé le plus grand programme de réhydratation par voie orale au monde afin de lutter contre la diarrhée. Et nous l'avons fait en enseignant simplement aux familles à utiliser du sel. Résultat, le Bangladesh connaît aujourd'hui le taux le plus élevé de réhydratation par voie orale. C'est seulement en lançant des projets d'une telle ampleur que vous arrivez à changer les habitudes d'une population.
Voilà, donc Bangladesh Rural Advancement Committee, une ONG bangladaise de développement qui mène des actions dans le domaine de l'aide au développement économique et social, l'éducation, la santé, présente au Bangladesh bien sûr, mais aussi en Afghanistan, au Sri Lanka, au Pakistan, en Philippines. Stéphanie Stern, est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu peut-être cette ONG qui fait figure d'exception quand même dans le paysage humanitaire qu'on décrit? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle est financée? Et puis est-ce que c'est le modèle des ONG du futur?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement c'est un modèle hybride entre l'ONG et l'entreprise sociale. D'ailleurs, Boris nous pourra nous dire plus précisément, mais je crois que en termes de structure juridique, elle se présente comme une ONG, mais je crois qu'il y a une partie qui est ONG, mais finalement que toutes les satellites d'activité sont plutôt des entreprises. Des entreprises du groupe, si je puis dire. Ce que je trouve qui est intéressant, justement, par rapport à ce qu'on disait auparavant, c'est cette complémentarité, en fait, entre à la fois des activités qui sont à destination des populations et qui vraiment ont pour volonté, ils sont dans cette approche, finalement, j'étais très contente d'entendre ce reportage, parce que c'est complètement la dynamique que devraient avoir toutes les ONG, en se disant, on part du terrain, on écoute les besoins et on les fait remonter, et après, on crée des solutions intelligentes et innovantes autour de ça. Enfin, pas forcément innovante, mais en tous les cas, parce que finalement, le système de réhydratation qu'il propose par voie orale, c'est du bon sens, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est de se dire, cette ONG a réussi justement à contrecarrer un peu les problèmes des financements et le problème d'indépendance en ayant des activités économiques qui leur permet après de financer leurs activités sociales. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un modèle qui est très intéressant. Est-ce qu'il est duplicable après dans les autres pays?
C'est la question que j'allais vous poser ensuite. Et Boris Martin, vous en parlez aussi dans votre ouvrage.
J'en parle dans mon ouvrage, je suis allé les rencontrer l'année dernière à Dakar. C'est effectivement très très impressionnant.
Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a impressionné?
C'est ce côté, ce que j'ai appelé le couteau suisse de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils abordent tout. Les questions de santé, les questions d'environnement, préparation aux catastrophes. Vous savez que le Bangladesh est un pays très, 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 très touché par la montée des eaux, les ouragans,
les inondations,
etc. C'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Donc ça serait la première chose, effectivement, qui pourrait me poser question. Problème, je sais pas, mais en tout cas question. Hein. Vous dites qu'effectivement ça génère quelque chose comme 2 ou 3% du PNB. Donc là, on a un État bangladais qui a renoncé à une partie de ses responsabilités, à une grosse partie de ses responsabilités, et qui d'une certaine manière ne les a pas transférées. En fait, cette ONG, qui a l'âge de Médecins sans frontières, c'est assez révélateur, a dit on va prendre tout ça en charge. Donc ça c'est effectivement impressionnant. Ce qui me pose question, et là ça c'est sans doute un travail d'investigation qui demanderait à être fait et que moi je n'ai pas pu faire, j'avais pas ce temps-là. C'est une très belle vitrine BRAC. Voilà, je pense qu'il faudrait creuser un petit peu plus pour savoir vraiment comment ça fonctionne. Mais effectivement cette dualité entre ONG et une société anonyme, hein, c'est un maillage de sociétés, certaines complètement indexées sur des besoins de la population, hein, c'est-à-dire ils ont monté une filière laitière parce qu'ils se rendaient compte que les producteurs laitiers n'arrivaient pas à faire arriver leurs produits sur les marchés, donc ils ont créé toute une chaîne comme ça. Ils dégagent du cash de cette activité-là, qu'ils réinjectent dans des activités solidaires.
Voilà, on n'est pas dans un modèle capitaliste classique, parce qu'effectivement, ce qui est l'argent qui est généré, on rémunère pas des actionnaires, on réinvestit directement dans d'autres projets.
Absolument.
C'est ce qui fait la grande différence.
Absolument. Mais ça, c'est peut-être la vitrine. Et sans vouloir porter de... Je me limite dans mon constat ce que j'ai vu, où je me dis il faudrait aller un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est tout de même un modèle, c'est une sorte d'OVNI, BRAC. Hein. Quand on parle de... Tout à l'heure, on parlait de ces ONG du Sud, on parle toujours de BRAC. Mais des BRAC, il n'y en a pas des milliers. Donc, tous les pays du Sud ne sont pas remplis de BRAC. Donc, il faut aussi peut-être s'intéresser à toutes les autres ONG de petite et de moyenne taille qui, elles, sont un petit peu plus connectées à la société civile. C'est ce que je regrette un petit peu chez BRAC.
Sans compter que tous les pays ne sont pas le Bangladesh, que si BRAC a émergé dans ce contexte-là, c'est peut-être parce que précisément l'État, c'est pas un État failli, mais en tout cas l'État est défaillant, et vous posiez tout à l'heure la question de l'exportabilité de ce modèle-là, peut-être qu'on a la réponse là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement ça, l'émergence a été possible parce qu'on était dans ce cadre-là. Absolument. Il n'est pas du tout dit que dans un pays où l'État est fort, ce genre de modèle puisse fonctionner. Stéphanie Stern.
Oui, mais c'est vrai que effectivement, vous avez raison, mais là, on se retrouve effectivement au Bangladesh dans une situation où l'État n'était pas était défaillant et du coup où Braque a pris un espace qui était libre. Donc et du coup, c'est approprié toute cette aide sociale en fait finalement et un acteur social effectivement majeur. Au Bangladesh. C'est vrai que ça pose quand même une grosse question sur la responsabilité et la déresponsabilisation de l'État.
Et comment est-ce qu'on peut organiser le travail de coopération entre des ONG comme celle-ci et des ONG, alors, une fois encore, on dit occidentale, historique, je ne sais pas comment, on comprend les ONG qui finalement sont le fameux instrument des Nations Unies et des États par lesquels eh bien, on retrouve ces canaux de financement. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de coopération, entre d'articulation entre ces acteurs?
Articulation à quel titre opérationnel, par exemple?
Oui, absolument. Et est-ce que, par exemple, on peut faire découler des financements dans ce type d'ONG?
C'est là où, effectivement, le cas de Braque, si elle se dit très, très ouverte à des partenariats avec d'autres ONG, quand même, Braque fonctionne en autonomie, en autarcie.
Mais c'est son souhait, je veux dire.
C'est en grande partie son souhait.
Hein. Il y a une question de souveraineté derrière.
Il y a une question de souveraineté. Elle tient à sa place. L'État bangladais lui-même lui envoie des signaux régulièrement de rester à sa place. Braque a retenu la leçon du conflit qui a opposé à un moment donné l'État bangladais à Mohamed Youssouf, le créateur de la Grameen Bank, donc une grande personnalité qu'on pouvait penser intouchable. Mais l'État bangladais l'a suspecté d'avoir des velléités politiques. Et là, Mohamed Younous, tout de suite, a eu des problèmes. Mmh. Et du coup, Braque, voyant ça, a essayé un petit peu plus de rester dans son rôle d'État bis chargé de tout le social. Hein. Donc, et juste pour finir, parce que sur cette idée justement de la substitution à l'État, là on est dans un cas comme ça. Les ONG françaises, en l'occurrence, elles n'ont jamais eu cet objectif. Ça n'a jamais été une volonté de se substituer à l'État. La volonté était d'être connecté à une société civile, de faire remonter des préoccupations, de s'insérer dans les marges laissées par l'État là où il n'intervenait pas, à l'étranger comme en France, mais d'interpeller l'État pour que l'État reprenne ses obligations qu'il ne remplissait pas.
Enfin, vous imaginez le scénario où Braque, puisque Braque est présente dans d'autres pays, où Braque finalement arriverait aussi en France pour aider, par exemple, je ne sais pas, les éleveurs de porc parce qu'ils ne sont pas entendus par notre gouvernement, par notre État. Enfin, vous imaginez comment l'État français, le gouvernement français prendrait les choses? Braque débarquant en Bretagne? Pourquoi pas?
Je le conçois.
Bah pourquoi pas?
Mais
bah pourquoi pas?
Non mais oui, pourquoi pas, parce que enfin je veux dire, si on n'a pas nous de supériorité par rapport à aux réponses à apporter, et effectivement si certaines ONG sont prêtes à venir, enfin considèrent qu'elles peuvent apporter quelque chose, etc. Il faut qu'on sorte aussi un peu de notre suprématie, notre supériorité occidentale, pour justement...
Je ne parle pas en mon nom, je me demande quelle serait la réaction de notre gouvernement.
Mauvaise, bien évidemment, voilà, bien évidemment. Oui. Mais ouais. De la même façon que l'État français a été extrêmement, on va dire, nerveux par l'intervention de Médecins du Monde quand ils ont été attaqués sur leur gestion de Calais, du camp de réfugiés de Calais. De la même façon, mais c'est aussi le devoir des ONG d'être un peu le trublion et d'être et de remettre en cause des choses qui ne sont pas qu'elles considèrent inacceptables.
Boris Martin, encore un mot avant de parler du Népal.
Non, mais là vous pointez effectivement une chose très très juste. Est-ce qu'on est prêt à la réciprocité? Est-ce qu'on est prêt à la réciprocité? Pour autant, les situations, elles sont pas identiques.
Comparaison n'est pas raison, bien sûr.
Non, hein, on parle de Braque qui est je le disais tout à l'heure, un ovni. Braque n'aura aucune intention d'intervenir en France parce que, il n'y a pas d'intérêt pour eux.
Allez, on va prendre la direction du Népal. Avril 2015, une série de séismes touche le Népal.
Mon véhicule s'est mis à bouger tout seul. J'ai cru que j'allais tomber. Alors j'ai réalisé que c'était un séisme.
Je regardais la télé chez moi quand tout d'un coup, je suis tombé du lit. Je me suis précipité dehors. J'ai couru aussi vite que possible en lieu sûr.
J'ai senti de grandes vibrations. Il était presque midi. L'immeuble a commencé à trembler. On a réussi à descendre du 7e étage.
Dans l'immédiat, nous avons besoin de tentes et aussi de stocks de nourriture. Nous n'avons pas d'eau potable, ni même d'eau pour se laver. Et le gouvernement ne nous livre pas de nourriture non plus.
Voilà, les dégâts avaient été considérables, 8000 morts, plus de 17000 blessés, 500000 d'habitations détruites, submergées par l'aide internationale au lendemain du tremblement de terre. Le blocage de l'aéroport de Katmandou avait même contraint les autorités à demander aux ONG de ne plus envoyer de secouristes. Le Népal a ensuite plus vraiment suscité la tension et la générosité. Alors où est-ce qu'on a la reconstruction? Quelle aide les ONG peuvent apporter aux Népalais alors même que la stabilité politique du pays laisse un peu à désirer? On va retrouver Laura Wennenberg, qui est directrice du bureau de l'ONG CARE au Népal. CARE, qui est une association humanitaire fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui agit dans près de 70 pays du monde. Alors ce Népal, depuis plusieurs années, il essaye de dépasser un petit peu les désaccords politiques qui découlent d'une histoire récente, disons, mouvementée, avec une monarchie décadente, avec une rébellion maoïste et une guerre civile qui a fait plus de 13 000 morts. Les aspirations démocratiques avaient du mal à se concrétiser, malgré la proclamation de la République en mai 2008. Et puis survient la catastrophe, et paradoxalement, elle a poussé finalement ce pays à adopter une nouvelle constitution, la première de l'histoire démocratique de cette nouvelle République fédérale. Voilà un petit peu pour le cadre général. Alors, est-ce que cette nouvelle constitution va permettre d'améliorer justement la reconstruction du pays? En tout cas, l'adoption d'un amendement par le Parlement népalais il y a deux jours suscite maintenant l'espoir des ONG qui pâtissent du blocus actuel à la frontière entre l'Inde et le Népal, freinant les importations de matériaux qui sont nécessaires, bien sûr, pour la reconstruction. C'est ce que nous explique donc Laura Wennenberg, directrice de ce bureau de l'ONG CARE au Népal. Elle est au micro d'Audrey Rameau.
Pouvoir sortir de l'impasse politique actuelle autour de la Constitution et de l'amendement de la Constitution sera évidemment un atout pour ceux d'entre nous qui tentons de faire face à l'urgence et qui travaillons auprès des communautés, car cela permettra de dégager des livraisons de matériel, d'essence et d'autres choses qui manquent à l'heure actuelle et qui sont nécessaires au processus de reprise. Les besoins sont évidemment plus importants que ce que nous sommes en mesure de fournir. Et c'est en partie parce que la situation politique continue de s'enliser que le gouvernement a vraiment du mal à se concentrer sur la reconstruction, alors que c'est précisément là une partie de son mandat tel que le prévoit la nouvelle constitution. Nous espérons donc que de nouvelles négociations autour de la situation politique permettront à tous les acteurs impliqués dans la reprise de l'activité d'y accorder davantage d'attention.
Quelles sont aujourd'hui les conditions de vie de la population à Katmandou et dans le reste du Népal? Et est-ce que vous ne craignez pas un regain de tension dans le pays à cause de la lenteur de la reconstruction?
Eh bien, une grosse partie du travail de redressement est sur les rails à Katmandou. Mais dans les districts les plus touchés, le rétablissement a à peine commencé. Les habitants font face à un hiver rigoureux. Dans certaines des régions les plus montagneuses, dans le nord, qui font partie des plus touchées, les habitants vivent encore dans des abris provisoires. Ces communautés plus isolées ont donc crucialement besoin d'un soutien renforcé. Il y a ce sentiment que les choses ont été retardées. Et lors de ma dernière visite dans les communautés où CARE travaille, les habitants ont clairement demandé que des efforts soient entrepris le plus rapidement possible pour mettre sur pied un programme d'hébergement et de reconstruction, parce qu'ils font face à des situations extrêmement difficiles en termes d'hébergement, d'infrastructures, d'eau, d'assainissement et autres. Je pense que d'une certaine manière, les ONG ont fait preuve d'une belle coordination, tant les ONG nationales que les agences d'aide internationale, dans la fourniture de matériel de base. Mais nous comptons vraiment sur les partenariats gouvernementaux pour le travail de reconstruction à long terme.
Nous savons que plus de 280 000 maisons sont endommagées, qu'un demi-million de logements ont été entièrement détruits. Je n'ai pas en tête le nombre exact de personnes touchées, mais en matière d'hébergement, nous avons énormément de gens qui ont perdu leur domicile et qui vivent dans des abris provisoires.
Quelles ont été vos premières actions après le séisme du 25 avril 2015 et comment vous assurez-vous maintenant que le slogan « Reconstruire en mieux » soit bien appliqué ?
CARE travaille au Népal depuis 1978, donc nous étions déjà présents dans les zones touchées par le séisme et nous avons heureusement pu travailler assez rapidement dès le début avec des organisations installées en Inde et avec d'autres organisations qui avaient d'autres sources d'approvisionnement. Nous avons tous travaillé avec des partenaires locaux dans tous les districts où nous étions présents et nous avons ainsi pu faire quelque chose et grâce à nos partenaires, approvisionner le marché local. Cela étant, nous avons tout de même été assez dépassés par l'importance des besoins et l'étendue des dégâts. Et juste après le tremblement de terre, la météo, les fortes pluies provoquées par les nombreuses répliques ont rendu les conditions de travail encore plus difficiles. Nous aménageons encore des systèmes pour faire face à l'hiver et aux conditions climatiques, parce que c'est encore une pierre d'achoppement. Donc, distribution de couvertures et d'édredons, matériel d'hébergement provisoire supplémentaire, vêtements chauds et de quoi recouvrir le sol pour les personnes qui vivent dans des bâtiments très exposés. S'agissant de notre travail de reconstruction, nous travaillons en étroite collaboration avec chefs de chantier et ouvriers pour trouver de nouvelles manières de construire, arriver à un modèle de logement plus sûr, mettre au point des techniques de construction qui rendraient les bâtiments de plus en plus résistants aux tremblements de terre et secousses sismiques. Nous mettons également l'accent sur l'eau et l'assainissement parce que plusieurs communautés ont complètement perdu leur système d'alimentation en eau à cause des glissements de terrain et d'autres choses. Et puis on a une approche à plus long terme qui consiste à travailler avec les communautés afin de retrouver des sources de revenus, comme par exemple le travail agricole ou d'autres activités sources de revenus.
Quand on regarde la situation en Haïti, on s'aperçoit que les ONG créent parfois une situation de dépendance à l'aide internationale au détriment de l'économie locale d'un pays. Comment on évite de tomber dans cet écueil ?
Il ne fait aucun doute que les communautés survivent grâce aux dons, mais ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas reconstruire leur vie et recommencer à travailler. Le problème, c'est qu'il faut lever certains blocages décisionnels et politiques au niveau du gouvernement. Prenez l'hébergement, par exemple. Une partie du plan de reconstruction consiste à pouvoir verser aux ménages une allocation de base d'environ 2000 dollars par foyer, prélevée sur des fonds du gouvernement, pour qu'ensuite des organisations comme CARE et d'autres ONG puissent travailler avec ces communautés sur la reconstruction. Mais tant que cet effort de reconstruction ne sera pas pleinement mis en œuvre, cette dépendance continuera d'exister, ou pire encore, s'aggravera, parce que les populations n'ont pas d'autre choix. Et l'une des choses que nous essayons de faire, c'est de voir comment fournir une aide de base, comme le système argent contre travail, qui permet aux habitants de gagner de quoi répondre à leurs besoins, mais toujours en pensant à mettre ces activités au service de la reconstruction des infrastructures de première nécessité, en attendant que le gouvernement puisse honorer sa part du contrat. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec les donateurs et d'autres ONG et membres de la communauté internationale afin de maintenir l'attention et de garder la situation sous le feu des projecteurs, mais aussi pour identifier les ressources susceptibles d'être allouées aux régions les plus touchées.
Voilà, c'était donc Laura Wennenberg en direct depuis le Népal, directrice du bureau de l'ONG CARE, qui était au micro d'Audrey Rameau, pas en direct puisque c'était hier soir que nous l'avons contacté. Boris Martin, réaction sur ce cas népalais. On est donc plus de 5 ans à l'époque après Haïti, dont on a dit combien elle avait été désastreuse du point de vue de la riposte, la réponse humanitaire. Vous semble qu'on avait tiré les leçons justement d'Haïti au Népal?
Je crois que les leçons, elles avaient été tirées. Ce qu'on n'arrive jamais à tirer comme leçon, et particulièrement en cas de catastrophe naturelle, c'est qu'une catastrophe de naturelle, enfin une catastrophe naturelle, ne peut jamais entraîner une espèce de... Tu parlais tout à l'heure de service après-vente. Il y a toujours ce mythe un petit peu d'une catastrophe, et tout d'un coup, les services de secours vont se mettre en branle de manière idéale et tout va bien se passer. Il faut quand même revenir à cette vérité... de base, c'est qu'une catastrophe désorganise totalement un pays, elle désorganise aussi dans une certaine mesure les secours et c'est jamais normal. Alors c'est vrai que pour le Népal, on a parlé on a continué de parler de cirque humanitaire, enfin il y a eu des formules très violentes. Mais généralement, voilà, on en oublie que pour une crise où effectivement il y a des crispations parce que c'est une crise un petit peu paroxystique, parce que c'est une crise hyper médiatisée, parce que c'est une catastrophe naturelle, c'est toujours différent d'un conflit, on oublie qu'il y a des centaines d'autres cirques, j'ai envie de dire, qui s'installent chaque année sur la planète.
Et c'est parce que c'est très médiatisé aussi que ça peut être utilisé, instrumentalisé. Je crois que sur le cas du Népal, vous pointez du doigt l'utilisation par certaines entreprises, en l'occurrence des entreprises américaines, l'utilisation de drones après la catastrophe, alors que ce n'était pas forcément utile, mais que c'était finalement une opération quasiment de communication pour légitimer, d'une certaine manière, l'utilisation de drones.
Oui, bien sûr.
Maurice Martin.
Ça, c'était assez éclairant, c'est-à-dire que on a vu des images de Katmandou effondrées grâce à des drones mis en avant par des sociétés qui auparavant travaillaient presque uniquement pour l'armée américaine et ce qu'on observe, c'est que effectivement là ces drones n'ont absolument servi à rien aux humanitaires. Il n'y avait même pas de coordination non plus, il n'y avait pas d'échange entre les sociétés de drones et les humanitaires. En revanche, effectivement, pour moi, c'est une entreprise de communication qui, partant de cette image un petit peu dévastatrice qu'avaient les drones jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire cette image de robot tueur utilisé dans un cadre purement militaire, là, tout d'un coup, on observe un basculement et une espèce de, comme dans d'autres domaines, une espèce de humanitarian washing, de se refaire une virginité en disant ces drones peuvent servir sur des crises humanitaires.
Merci beaucoup à tous les deux. Stéphanie Stern, chercheuse à l'IRI sur ces questions de solidarité internationale, sur ces questions de mutation du secteur humanitaire. Pour en savoir plus, justement, on peut se référer à votre série d'articles. Vous avez coordonné un grand dossier dans la revue 98, numéro 98, Revue internationale et stratégique. Quant à vous, Boris Martin, on peut se référer à cet ouvrage, notamment L'adieu à l'humanitaire, sous-titré Les ONG au défi de l'offensive néolibérale. On va mettre tous ces ouvrages sur le site de France Culture, parce que vous savez peut-être que nous aussi, on se repense, on se réforme, puisqu'on a un nouveau site sur France Culture. D'accord. Ce sera beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, on peut réécouter cette émission, non plus pendant 3 ans comme c'était le cas avant, mais pour toute la vie. C'est pas mal. Merci beaucoup en tous les cas, à l'un et à l'autre, d'être venu ce matin nous éclairer.